Le temps retrouvé, chapitre 2, suite. Il faisait une nuit transparente et sans un souffle. J'imaginais que la Seine, coulant entre ces ponts circulaires, faits de leur plateau et de son reflet, devait ressembler au Bosphore. Et symbole, soit de cette invasion que prédisait le défaitisme de M. de Charlus, soit de la coopération de nos frères musulmans avec les armées de la France, la lune, étroite et recourbée comme un sequin, semblait mettre le ciel parisien sous le signe oriental du croissant. Pour un instant encore, il resta en arrêt devant un Sénégalais en me disant adieu et en me serrant la main me la broyer, ce qui est une particularité allemande chez les gens qui sentent comme le baron, et en continuant pendant quelque temps à me la malaxer, eût dit jadis Cottard. Comme si M. de Charlus avait voulu rendre à mes articulations une souplesse qu'elles n'avaient point perdue. Chez certains aveugles, le toucher supplée dans une certaine mesure à la vue. Je ne sais trop de quel sens il prenait la place ici. Il croyait peut-être seulement me serrer la main, comme il crut sans doute ne faire que voir le Sénégalais qui passait dans l'ombre et ne daigna pas s'apercevoir qu'il était admiré. Mais dans ces deux cas, le baron se trompait. Il péchait par excès de contact et de regard. Est-ce que tout l'Orient de Descamps, de Fromentin, d'Ingres, de Delacroix n'est pas là-dedans ? Me dit-il, encore immobilisé par le passage du Sénégalais. Vous savez, moi, je ne m'intéresse jamais aux choses et aux êtres qu'en peintre, en philosophe. D'ailleurs, je suis trop vieux. Mais quel malheur pour compléter le tableau que l'un de nous deux ne soit pas une odalisque. Ce ne fut pas l'Orient de Descamps, ni même de Delacroix, qui commença de hanter mon imagination quand le baron m'eut quitté. Mais le vieil Orient de ces mille et une nuits que j'avais tant aimé, et, me perdant peu à peu dans le lacis de ces rues noires, je pensais au calife Haroun al-Rachid, en quête d'aventure dans les quartiers perdus de Bagdad. D'autre part, la chaleur du temps et de la marche m'avait donné soif, mais depuis longtemps tous les bars étaient fermés, et à cause de la pénurie d'essence, les rares taxis que je rencontrais, conduits par des levantins ou des nègres, ne prenaient même pas la peine de répondre à mes signes. Le seul endroit où j'aurais pu me faire servir à boire et reprendre des forces pour rentrer chez moi eût été un hôtel. Mais dans la rue assez éloignée du centre où j'étais parvenu, tous, depuis que sur Paris les Gothas lançaient leurs bombes, avaient fermé. Il en était de même de presque toutes les boutiques de commerçants, lesquelles, faute d'employés ou eux-mêmes pris de peur, avaient fui à la campagne et laissé sur la porte un avertissement habituel écrit à la main et annonçant leur réouverture pour une époque éloignée, et d'ailleurs problématique. Les autres établissements qui avaient pu survivre encore annonçaient de la même manière qu'ils n'ouvraient que deux fois par semaine. On sentait que la misère, l'abandon, la peur habitaient tout ce quartier. Je n'en fus que plus surpris de voir qu'entre ces maisons délaissées, il y en avait une où la vie, au contraire, semblait avoir vaincu l'effroi, la faillite, et entretenait l'activité et la richesse. Derrière les volets clos de chaque fenêtre, la lumière, tamisée à cause des ordonnances de police, décelait pourtant un insouci complet de l'économie. Et à tout instant, la porte s'ouvrait pour laisser rentrer ou sortir quelques visiteurs nouveaux. C'était un hôtel par qui la jalousie de tous les commerçants voisins, à cause de l'argent que ses propriétaires devaient gagner, devait être excitée. Et ma curiosité le fut aussi quand je vis sortir rapidement, à une quinzaine de mètres de moi, c'est-à-dire trop loin pour que dans l'obscurité profonde je pusse le reconnaître, un officier. Quelque chose pourtant me frappa, qui n'était pas sa figure que je ne voyais pas, ni son uniforme dissimulé dans une grande houppelande, mais la disproportion extraordinaire entre le nombre de points différents par où passa son corps et le petit nombre de secondes pendant lesquelles cette sortie, qui avait l'air de la sortie tentée par un assiégé, s'exécuta. De sorte que je pensais, si je ne le reconnus pas formellement, je ne dirai pas même à la tournure, ni à la sveltesse, ni à l'allure, ni à la vélocité de Saint-Loup, mais à l'espèce d'ubiquité qui lui était si spéciale. Le militaire, capable d'occuper en si peu de temps tant de positions différentes dans l'espace, avait disparu, sans m'avoir aperçu, dans une rue de traverse, et je restais à me demander si je devais ou non entrer dans cet hôtel, dont l'apparence modeste me fit fortement douter que ce fût Saint-Loup qui en fût sorti. Je me rappelais involontairement que Saint-Loup avait été injustement mêlé à une affaire d'espionnage, parce qu'on avait trouvé son nom dans les lettres saisies sur un officier allemand. Pleine justice lui avait d'ailleurs été rendue par l'autorité militaire. Mais malgré moi, je rapprochais ce fait de ce que je voyais. Cet hôtel servait-il de lieu de rendez-vous à des espions? L'officier avait depuis un moment disparu quand je vis entrer de simples soldats de plusieurs armes, ce qui ajouta encore à la force de ma supposition. J'avais, d'autre part, extrêmement soif. « Il est probable que je pourrais trouver à boire ici, » me dis-je, et j'en profitai pour tâcher d'assouvir, malgré l'inquiétude qui s'y mêlait, ma curiosité. Je ne pense donc pas que ce fût la curiosité de cette rencontre qui me décida à monter le petit escalier de quelques marches, au bout duquel la porte d'une espèce de vestibule était ouverte, sans doute à cause de la chaleur. Je crus d'abord que cette curiosité, je ne pourrais la satisfaire, car je vis plusieurs personnes venir demander une chambre, à qui on répondit qu'il n'y en avait plus une seule. Mais je compris ensuite qu'elle n'avait évidemment contre elle que de ne pas faire partie du nid d'espionnage, car un simple marin s'étant présenté un moment après, on se hâta de lui donner le numéro 28. Je pus apercevoir sans être vu, grâce à l'obscurité, quelques militaires et deux ouvriers qui causaient tranquillement dans une petite pièce étouffée, prétentieusement ornée de portraits en couleur, de femmes, découpées dans des magazines et des revues illustrées. Ces gens causaient tranquillement, en train d'exposer des idées patriotiques. « Qu'est-ce que tu veux, on fera comme les camarades ?» disait l'un. « Ah, pour sûr que je pense bien ne pas être tué !» répondait à un vœu que je n'avais pas entendu, un autre qui, à ce que je compris, repartait le lendemain pour un poste dangereux. « Par exemple, à 22 ans, en n'ayant encore fait que 6 mois, ce serait fort » criait-il, avec un ton où perçait encore plus que le désir de vivre longtemps, la conscience de raisonner juste. Mais comme si le fait de n'avoir que 22 ans devait lui donner plus de chances de ne pas être tué, et que ce dût être une chose impossible qu'il le fût. « À Paris, c'était pas tant !» disait un autre. « On ne dirait pas qu'il y a la guerre. Et toi, Julot, tu t'engages toujours ?»« Pour sûr que je m'engage. J'ai envie d'aller y taper un peu dans le tas à tous ces sales boches. »« Mais, j'offre. C'est un homme qui couche avec les femmes des ministres. C'est pas un homme qui a fait quelque chose. » « C'est malheureux d'entendre des choses pareilles, » dit un aviateur un peu plus âgé en se tournant vers l'ouvrier qui venait de faire entendre cette proposition. « Je vous conseillerais pas de causer comme ça en première ligne. Les poilus vous auraient vite expédié. » La banalité de ces conversations ne me donnait pas grande envie d'en entendre davantage. Et j'allais entrer, ou redescendre, quand je fus tiré de mon indifférence en entendant ces phrases qui me firent frémir. C'est épatant, le patron qui ne revient pas. Dame, à cette heure-ci, je ne sais pas trop où il trouvera les chaînes. Mais puisque l'autre est déjà attaché. Il est attaché, bien sûr. Il est attaché et il ne l'est pas. Moi, je serais attaché comme ça que je pourrais me détacher. Mais le cadenas est fermé. C'est entendu qu'il est fermé, mais ça peut s'ouvrir à la rigueur. Ce qu'il y a, c'est que les chaînes ne sont pas assez longues. Tu vas pas m'expliquer à moi ce que c'est. J'y ai tapé dessus hier pendant toute la nuit, que le sang m'en coulait sur les mains. C'est toi qui taperas ce soir. Non, c'est pas moi, c'est Maurice. Mais ça sera moi dimanche, le patron me l'a promis. Je compris maintenant pourquoi on avait eu besoin des bras solides du marin. Si on avait éloigné de paisibles bourgeois, ce n'était donc pas qu'un nid d'espions que cet hôtel. Un crime atroce allait y être consommé, si on n'arrivait pas à temps pour le découvrir et faire arrêter les coupables. Tout cela, pourtant, dans cette nuit paisible et menacée, gardait une apparence de rêve, de conte, et c'est à la fois avec une fierté de justicier et une volupté de poète que j'entrais délibérément dans l'hôtel. Je touchai légèrement mon chapeau, et les personnes présentes, sans se déranger, répondirent plus ou moins poliment à mon salut. « Est-ce que vous pourriez me dire à qui il faut m'adresser? Je voudrais avoir une chambre et qu'on m'y monte à boire. »« Attendez une minute, le patron est sorti. » « Mais il y a le chef, là-haut !» insinua un des causeurs. « Mais tu sais bien qu'on ne peut pas le déranger. »« Croyez-vous qu'on me donnera une chambre ?»« Je crois. Le 43 doit être libre. » dit le jeune homme, qui était sûr de ne pas être tué parce qu'il avait 22 ans. Et il se poussa légèrement sur le sofa pour me faire place. « Si on ouvrait un peu la fenêtre, il y a une fumée ici !» dit l'aviateur. Et en effet, chacun avait sa pipe ou sa cigarette. « Oui, mais alors, fermez d'abord les volets. Vous savez bien qu'il est défendu d'avoir de la lumière à cause des zeppelins. » « Il n'en viendra plus de Zeppelin. Les journaux ont même fait allusion sur ce qu'ils avaient été tous descendus. »« Il n'en viendra plus, il n'en viendra plus. Qu'est-ce que tu en sais? Quand tu auras comme moi 15 mois de front et que tu auras abattu ton 5e avion Bosch, tu pourras en causer. Faut pas croire les journaux. Ils sont allés hier sur Compiègne. Ils ont tué une mère de famille avec ses 2 enfants. »« Une mère de famille avec ses 2 enfants ?» dit avec des yeux ardents et un air de profonde pitié le jeune homme qui espérait bien ne pas être tué et qui avait du reste une figure énergique, ouverte et des plus sympathiques. « On n'a pas de nouvelles du grand Julot. Sa marraine n'a pas reçu de lettre de lui depuis 8 jours et c'est la première fois qu'il reste si longtemps sans lui en donner. Qui est sa marraine ?» « C'est la dame qui tient le chalet de nécessité un peu plus bas que l'Olympia. »« Ils couchent ensemble ?»« Qu'est-ce que tu dis là? C'est une femme mariée, tout ce qu'il y a de sérieuse. Elle lui envoie de l'argent toutes les semaines parce qu'elle a bon cœur. Ah, c'est une chic femme. »« Alors, tu le connais, le grand Julot ?»« Si je le connais !» reprit avec chaleur le jeune homme de 22 ans. « C'est un de mes meilleurs amis intimes. » Il n'y en a pas beaucoup que j'estime comme lui. Et bon camarade, toujours prêt à rendre service. Ah, tu parles que ce serait un rude malheur s'il lui était arrivé quelque chose. » Quelqu'un proposa une partie de dés, et à la hâte fébrile avec laquelle le jeune homme de 22 ans retournait les dés et criait les résultats, les yeux hors de la tête, il était aisé de voir qu'il avait un tempérament de joueur. Je ne saisis pas bien ce que quelqu'un lui dit ensuite, mais il s'écria d'un ton de profonde pitié. « Julot, un maquereau ! C'est-à-dire qu'il dit qu'il est un maquereau, mais il n'est pas foutu de l'être. Moi, je l'ai vu payer sa femme. Oui, il a payé. C'est-à-dire que je ne dis pas que Jeanne l'Algérienne ne lui donnait pas quelque chose, mais elle ne lui donnait pas plus de 5 francs. Une femme qui était en maison, qui gagnait plus de 50 francs par jour. se faire donner que 5 francs. Il faut qu'un homme soit trop bête. Et maintenant qu'elle est sur le front, elle a une vie dure, je veux bien, mais elle gagne ce qu'elle veut. Eh bien, elle ne lui envoie rien. Ah, un maquereau, Julot. Il y en a beaucoup qui pourraient se dire maquereau à ce compte-là. Non seulement ce n'est pas un maquereau, mais à mon avis, c'est même un imbécile. Le plus vieux de la bande, et que le patron avait sans doute, à cause de son âge, chargé de lui faire garder une certaine tenue, n'entendit, étant allé un moment jusqu'au cabinet, que la fin de la conversation. Mais il ne put s'empêcher de me regarder et parut visiblement contrarié de l'effet qu'elle avait dû produire sur moi. Sans s'adresser spécialement au jeune homme de 22 ans, qui venait pourtant d'exposer cette théorie de l'amour vénal, il dit d'une façon générale « Vous causez trop et trop fort, la fenêtre est ouverte, il y a des gens qui dorment à cette heure-ci. Vous savez que si le patron rentrait et vous entendait causer comme ça, il ne serait pas content. » Précisément en ce moment, on entendit la porte s'ouvrir et tout le monde se tut, croyant que c'était le patron. Mais ce n'était qu'un chauffeur d'auto étranger auquel tout le monde fit grand accueil. Mais en voyant une chaîne de montres superbe qui s'étalait sur la veste du chauffeur, le jeune homme de 22 ans lui lança un coup d'œil interrogatif et rieur, suivi d'un froncement du sourcil et d'un clignement d'œil sévère dirigé de mon côté. Et je compris que le premier regard voulait dire « Qu'est-ce que ça? Tu l'as volé? Toutes mes félicitations !» Et le second « Ne dis rien à cause de ce type que nous ne connaissons pas !» Tout à coup, le patron entra, chargé de plusieurs mètres de grosses chaînes capables d'attacher plusieurs forçats, suant et dit « J'en ai une charge. Si vous tous vous n'étiez pas si fainéants, je ne devrais pas être obligé d'y aller moi-même. » Je lui dis que je demandais une chambre. « Pour quelques heures seulement, je n'ai pas trouvé de voiture et je suis un peu malade, mais je voudrais qu'on me monte à boire. Pierrot, va à la cave chercher du cassis et dis qu'on mette en état le numéro 43. Voilà le 7 qui sonne. Ils disent qu'ils sont malades. Malades, je t'en fiche. C'est des gens à prendre de la coco. Ils ont l'air à moitié piqués. Il faut les foutre dehors. A-t-on mis une paire de draps au 22 ? Bon. Voilà le 7 qui sonne encore. Cours y voir. Allons, Maurice, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais bien qu'on t'attend. Monte au 14 bis, et plus vite que ça. » Et Maurice sortit rapidement, suivant le patron, qui, un peu ennuyé que j'eusse vu ses chaînes, disparut en les emportant. « Comment que tu viens si tard ? » demanda le jeune homme de 22 ans au chauffeur. « Comment, si tard ? Je suis d'une heure en avance. » Mais il fait trop chaud au marché. J'ai rendez-vous qu'à minuit. Pour qui donc est-ce que tu viens ?
Pour Pamela la charmeuse, dit le chauffeur oriental, dont le rire découvrit les belles dents blanches.
Ah ! Dit le jeune homme de 22 ans.
Bientôt, on me fit monter dans la chambre 43, mais l'atmosphère était si désagréable et ma curiosité si grande que mon cassis but. Je redescendis l'escalier, puis, pris d'une autre idée, je remontai et dépassai l'étage de la chambre 43, allai jusqu'en haut. Tout à coup, d'une chambre qui était isolée au bout d'un couloir, me semblèrent venir des plaintes étouffées. Je marchai vivement dans cette direction et appliquai mon oreille à la porte.
« Je vous en supplie, grâce, grâce, pitié, détachez-moi. Ne me frappez pas si fort,
disait une voix.
Je vous baise les pieds, je m'humilie, je ne recommencerai pas. Ayez pitié.
Non, crapule, répondit une autre voix. Et puisque tu gueules et que tu te traînes à genoux, on va t'attacher sur le lit. Pas de pitié. Et j'entendis le bruit du claquement d'un martinet, probablement aiguisé de clous, car il fut suivi de cris de douleur. Alors, je m'aperçus qu'il y avait dans cette chambre un œil de bœuf latéral dont on avait oublié de tirer le rideau. Cheminant à pas de loup dans l'ombre, je me glissai jusqu'à cet œil de bœuf. Et là, enchaîné sur un lit comme Prométhée sur son rocher, recevant les coups d'un martinet en effet planté de clous que lui infligeait Maurice, je vis, déjà tout en sang et couvert d'ecchymoses, qui prouvaient que le supplice n'avait pas lieu pour la première fois, je vis, devant moi, Monsieur de Charlus. Tout à coup, la porte s'ouvrit et quelqu'un entra qui, heureusement, ne me vit pas. C'était Jupien. Il s'approcha du baron avec un air de respect et un sourire d'intelligence. « Eh bien, vous n'avez pas besoin de moi ?» Le baron pria Jupien de faire sortir un moment Maurice. Jupien le mit dehors avec la plus grande désinvolture. « On ne peut pas nous entendre !» dit le baron à Jupien, qui lui affirma que non. Le baron savait que Jupien, intelligent comme un homme de lettres, n'avait nullement l'esprit pratique, parlait toujours devant les intéressés, avec des sous-entendus qui ne trompaient personne et des surnoms que tout le monde connaissait. « Une seconde !» interrompit Jupien, qui avait entendu une sonnette retentir à la chambre numéro 3. C'était un député de l'Action libérale qui sortait. Jupien n'avait pas besoin de voir le tableau, car il connaissait son coup de sonnette, le député venant, en effet, tous les jours après déjeuner. Il avait été obligé ce jour-là de changer ses heures, car il avait marié sa fille à midi, à Saint-Pierre-de-Chaillot. Il était donc venu le soir, mais tenait à partir de bonne heure à cause de sa femme, vite inquiète quand il rentrait tard, surtout par ces temps de bombardement. Jupien tenait à accompagner sa sortie pour témoigner de la déférence qu'il portait à la qualité d'honorable, sans aucun intérêt personnel d'ailleurs. Car bien que ce député, répudiant les exagérations de l'Action française, il eût d'ailleurs été incapable de comprendre une ligne de Charles Maurras ou de Léon Daudet, fut bien avec les ministres, flatté d'être invité à ses chasses. Jupien n'aurait pas osé lui demander le moindre appui dans ses démêlés avec la police. Il savait que s'il s'était risqué à parler de cela au législateur Fortuné et Froussard, il n'aurait pas évité la plus inoffensive des descentes, mais eût instantanément perdu le plus généreux de ses clients. Après avoir reconduit jusqu'à la porte le député, qui avait rabattu son chapeau sur ses yeux, relevé son col, et, glissant rapidement comme il faisait dans ses programmes électoraux, croyait cacher son visage. Jupien remonta près de Monsieur de Charlus, à qui il dit « C'était Monsieur Eugène. » Chez Jupien, comme dans les maisons de santé, on appelait les gens que par leur prénom, tout en ayant soin d'ajouter à l'oreille, pour satisfaire la curiosité des habitués ou augmenter le prestige de la maison, leur nom véritable. Quelquefois, cependant, Jupien ignorait la personnalité vraie de ses clients, s'imaginait et disait que c'était tel boursier, tel noble, tel artiste, erreurs passagères et charmantes pour ceux qu'on nommait à tort, et finissait par se résigner à ignorer toujours qui était Monsieur Victor. Jupien avait aussi l'habitude, pour plaire au baron, de faire l'inverse de ce qui est de mise dans certaines réunions. « Je vais vous présenter Monsieur Lebrun. » À l'oreille, « Il se fait appeler Monsieur Lebrun, mais en réalité, c'est le grand-duc de Russie. » Inversement, Jupien sentait que ce n'était pas encore assez de présenter à Monsieur de Charlus un garçon laitier. Il lui murmurait en clignant de l'œil, « Il est garçon laitier, mais, au fond, c'est surtout un des plus dangereux apaches de Belleville. » Il fallait voir le ton grivois dont Jupien disait « apache ». Et comme si ces références ne suffisaient pas, il tâchait d'ajouter quelques citations. « Il a été condamné plusieurs fois pour vol et cambriolage de villa. Il a été à Fresnes pour s'être battu. » Mais mère grivois. Avec des passants qu'il a à moitié estropiés et il a été au bas de Daf. Il a tué son sergent. Le baron en voulait même légèrement à Jupien, car il savait que dans cette maison, qu'il avait chargé son factotum d'acheter pour lui et de faire gérer par un sous-ordre, tout le monde, par les maladresses de l'oncle de Mademoiselle d'Oloron, feu Madame de Cambremer, connaissait plus ou moins sa personnalité et son nom. Beaucoup seulement croyaient que c'était un surnom, et, le prononçant mal, l'avaient déformé, de sorte que la sauvegarde du baron avait été leur propre bêtise, et non la discrétion de Jupien. Mais il trouvait plus simple de se laisser rassurer par ses assurances, et tranquillisé de savoir qu'on ne pouvait les entendre, le baron lui dit « Je ne voulais pas parler devant ce petit, qui est très gentil et fait de son mieux, mais je ne le trouve pas assez brutal. Sa figure me plaît, mais il m'appelle crapule, comme si c'était une leçon apprise. »«
Oh non, personne ne lui a rien dit, » répondit Jupien sans s'apercevoir de l'invraisemblance de cette assertion. « Il a du reste été compromis dans le meurtre d'une concierge de la Villette. »«
Ah, cela c'est assez intéressant, » dit le baron avec un sourire.
« Mais j'ai justement là le tueur de bœuf, l'homme des abattoirs qui lui ressemble. Il a passé par hasard, voulez-vous en essayer ?»«
Ah oui, volontiers. » Je vis entrer l'homme des abattoirs. Il ressemblait, en effet, un peu à Maurice. Mais, chose plus curieuse, tous deux avaient quelque chose d'un type que personnellement je n'avais jamais dégagé, mais qu'à ce moment, je me rendis très bien compte existait dans la figure de Morel, sinon dans la figure de Morel telle que je l'avais toujours vue, du moins dans un certain visage que des yeux aimants voyant Morel autrement que moi auraient pu composer avec ses traits. Dès que je me fus fait intérieurement, avec des traits empruntés à mes souvenirs de Morel, cette maquette de ce qu'il pouvait représenter à un autre, je me rendis compte que ces deux jeunes gens, dont l'un était un garçon bijoutier et l'autre un employé d'hôtel, étaient de vagues succès d'années de Morel. Fallait-il en conclure que M. de Charlus, au moins en une certaine forme de ses amours, était toujours fidèle à un même type, et que le désir qui lui avait fait choisir l'un après l'autre ces deux jeunes gens était le même que celui qui lui avait fait arrêter Morel sur le quai de la gare de Doncières? Que tous trois ressemblaient un peu à l'éphèbe, dont la forme, entaillée dans le saphir, qu'étaient les yeux de M. de Charlus, donnait à son regard ce quelque chose de si particulier qui m'avait effrayé le premier jour à Balbec. Ou que son amour pour Morel, ayant modifié le type qu'il cherchait, pour se consoler de son absence, il cherchait des hommes qui lui ressemblassent. Une supposition que je fis aussi fut que peut-être il n'avait jamais existé entre Morel et lui, malgré les apparences, que des relations d'amitié, et que M. de Charlus faisait venir chez Jupien des jeunes gens qui ressemblassent assez à Morel pour qu'il pût avoir auprès d'eux l'illusion de prendre du plaisir avec lui. Il est vrai qu'en songeant à tout ce que M. de Charlus a fait pour Morel, cette supposition eût semblé peu probable, si l'on ne savait que l'amour nous pousse non seulement au plus grand sacrifice pour l'être que nous aimons, mais parfois jusqu'au sacrifice de notre désir lui-même, qui d'ailleurs est d'autant moins facilement exaucé que l'être que nous aimons sent que nous aimons davantage. Ce qui enlève aussi à une telle supposition l'invraisemblance qu'elle semble avoir au premier abord, bien qu'elle ne corresponde sans doute pas à la réalité, est dans le tempérament nerveux, dans le caractère profondément passionné de M. de Charlus, pareil en cela à celui de Saint-Loup, et qui avait pu jouer au début de ses relations avec Morel le même rôle, et plus décent et négatif, qu'au début des relations de son neveu avec Rachel. Les relations avec une femme qu'on aime, et cela peut s'étendre à l'amour pour un jeune homme, peuvent rester platoniques pour une autre raison que la vertu de la femme ou que la nature peu sensuelle de l'amour qu'elle inspire. Cette raison peut-être que l'amoureux, trop impatient par l'excès même de son amour, ne sait pas attendre avec une feinte suffisante d'indifférence le moment où il obtiendra ce qu'il désire. Tout le temps, il revient à la charge, il ne cesse d'écrire à celle qu'il aime, il cherche tout le temps à la voir, elle le lui refuse, il est désespéré. Dès lors, elle a compris que si elle lui accorde sa compagnie, son amitié, ses biens paraîtront déjà tellement considérables à celui qui a cru en être privé qu'elle peut se dispenser de donner davantage et profiter d'un moment où il ne peut plus supporter de ne pas la voir, où il veut à tout prix terminer la guerre, en lui imposant une paix qui aura pour première condition le platonisme des relations. D'ailleurs, pendant tout le temps qui a précédé ce traité, l'amoureux, tout le temps anxieux, sans cesse à l'affût d'une lettre, d'un regard, a cessé de penser à la possession physique dont le désir l'avait tourmenté d'abord, mais qui s'est usé dans l'attente et a fait place à des besoins d'un autre ordre, plus douloureux d'ailleurs s'ils ne sont pas satisfaits. Alors, le plaisir qu'on avait le premier jour espéré des caresses, on le reçoit plus tard tout dénaturé sous la forme de paroles amicales, de promesses de présence, qui, après les effets de l'incertitude, quelquefois simplement après un regard embrumé de tous les brouillards de la froideur, et qui recule si loin la personne qu'on croit qu'on ne la reverra jamais, amène de délicieuses détentes. Les femmes devinent tout cela, et savent qu'elles peuvent s'offrir le luxe de ne se donner jamais à ceux dont elles sentent, s'ils ont été trop nerveux pour le leur cacher les premiers jours, l'inguérissable désir qu'ils ont d'elles. La femme est trop heureuse que, sans rien donner, elle reçoive beaucoup plus qu'elle n'a d'habitude quand elle se donne. Les grands nerveux croient ainsi à la vertu de leur idole, et l'auréole qu'ils mettent autour d'elle est aussi un produit, mais comme on voit, fort indirect, de leur excessif amour. Il existe alors chez la femme ce qui existe à l'état inconscient chez les médicaments à leur insu rusés, comme sont les soporifiques, la morphine. Ce n'est pas à ceux à qui ils donnent le plaisir du sommeil ou un véritable bien-être qu'ils sont absolument nécessaires. Ce n'est pas par cela qu'ils seraient achetés à prix d'or, échangés contre tout ce que le malade possède. C'est par ces autres malades, d'ailleurs peut-être les mêmes, mais à quelques années de distance, devenus autres, que le médicament ne fait pas dormir, à qui il ne cause aucune volupté, mais qui, tant qu'ils ne l'ont pas, sont en proie à une agitation qu'ils veulent faire cesser à tout prix, fût-ce en se donnant la mort. Pour monsieur de Charlus, dont le cas en somme, avec cette légère différenciation due à la similitude du sexe, rentre dans les lois générales de l'amour, il avait beau appartenir à une famille plus ancienne que les Capétiens, être riche, être vainement recherché par une société élégante, et Morel n'être rien, il aurait eu beau dire à Morel, comme il m'avait dit à moi-même, « Je suis prince, je veux votre bien. » Encore était-ce Morel qui avait le dessus s'il ne voulait pas se rendre. Et pour qu'il ne le voulût pas, il suffisait peut-être qu'il se sentît aimé. L'horreur que les grands ont pour les snobs qui veulent à toute force se lier avec eux. L'homme viril l'a pour l'inverti, la femme pour tout homme trop amoureux. Monsieur de Charlus non seulement avait tous les avantages, mais en eût proposé d'immenses à Morel. Mais il est possible que tout cela se fût brisé contre une volonté. Il en eût été dans ce cas de monsieur de Charlus, comme de ces Allemands, auxquels il appartenait, du reste, par ses origines, et qui, dans la guerre qui se déroulait à ce moment, étaient bien, comme le baron le répétait un peu trop volontiers, vainqueurs sur tous les fronts. Mais à quoi leur servait leur victoire, puisqu'après chacune, ils trouvaient les alliés plus résolus à leur refuser la seule chose que les Allemands eussent souhaité d'obtenir la paix et la réconciliation. Ainsi, Napoléon entrait en Russie et demandait magnanimement aux autorités de venir vers lui. Mais personne ne se présentait. Je descendis et rentrai dans la petite antichambre où Maurice, incertain si on le rappellerait et à qui Jupien avait à tout hasard dit d'attendre, était en train de faire une partie de cartes avec un de ses camarades. On était très agité d'une croix de guerre qui avait été trouvée par terre, et on ne savait pas qui l'avait perdue, à qui la renvoyer pour éviter au titulaire un ennui. Puis on parla de la bonté d'un officier qui s'était fait tuer pour tâcher de sauver son ordonnance. « Il y a tout de même du bon monde chez les riches. Moi, je me ferais tuer avec plaisir pour un type comme ça. » dit Maurice, qui, évidemment, n'accomplissait ces terribles fustigations sur le baron que par une habitude mécanique. Les effets d'une éducation négligée, le besoin d'argent et un certain penchant à le gagner d'une façon qui était censée donner moins de mal que le travail, et en donner peut-être davantage. Mais, ainsi que l'avait craint M. de Charlus, c'était peut-être un très bon cœur, et c'était, paraît-il, un garçon d'une admirable bravoure. Il avait presque les larmes aux yeux en parlant de la mort de cet officier, et le jeune homme de 22 ans n'était pas moins ému. « Ah oui, ce sont de chics types, des malheureux comme nous encore, ça n'a pas grand-chose à perdre. » Mais un monsieur qui a des tas de larbins, qui peut aller prendre son apéro tous les jours à 6 heures, c'est vraiment chouette. On peut charrier tant qu'on veut, mais quand on voit des types comme ça mourir, ça fait vraiment quelque chose. Le bon Dieu ne devrait pas permettre que des riches comme ça meurent. D'abord, ils sont trop utiles à l'ouvrier. Rien qu'à cause d'une mort comme ça, faudra tuer tous les Boches jusqu'au dernier. Et ce qu'ils ont fait à Louvain... Et couper des poignets de petits-enfants? Non, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Mais je me laisserai envoyer des pruneaux dans la gueule plutôt que d'obéir à des barbares comme ça. Car c'est pas des hommes, c'est des vrais barbares, tu ne diras pas le contraire. » Tous ces garçons étaient, en somme, patriotes. Un seul, légèrement blessé au bras, ne fut pas à la hauteur des autres, car il dit, comme il devait bientôt repartir. « Dame, ça n'a pas été la bonne blessure, celle qui fait réformer. » Comme Madame Swann disait jadis, « j'ai trouvé le moyen d'attraper la fâcheuse influenza. » La porte se rouvrit sur le chauffeur qui était allé un instant prendre l'air. « Comment, c'est déjà fini? Ça n'a pas été long. » dit-il en apercevant Maurice, qu'il croyait en train de frapper celui qu'on avait surnommé, par allusion à un journal qui paraissait à cette époque, l'homme enchaîné. « Ce n'est pas long pour toi qu'ils allaient prendre l'air, » répondit Maurice, froissé qu'on vit qu'il avait des plus là-haut. « Mais si tu étais obligé de taper à tour de bras comme moi par cette chaleur, si c'était pas les 50 francs qu'ils donnent... » « Et puis, c'est un homme qui cause bien. On sent qu'il a de l'instruction. Dit-il que ce sera bientôt fini ?»« Il dit qu'on ne pourra pas les avoir, que ça finira sans que personne ait le dessus. »« Bon sang de bon sang, mais c'est donc un boche. » !»« Je vous ai dit que vous causiez trop haut, » dit le plus vieux aux autres en m'apercevant. « Vous avez fini avec la chambre ?» « Oh, ta gueule, tu n'es pas le maître ici !»«
Oui, j'ai fini et je venais pour payer. »«
Il vaut mieux que vous payiez au patron. Maurice, va donc le chercher. »«
Mais je ne peux pas vous déranger. »«
Ça ne me dérange pas. »
Maurice monta et revint en me disant « Le patron descend. » Je lui donnai 2 francs pour son dérangement. Il rougit de plaisir.
« Ah, merci bien !» Je les enverrai à mon frère qui est prisonnier. Non, il n'est pas malheureux, ça dépend beaucoup des camps. »
Pendant ce temps, 2 clients très élégants, en habits et cravates blanches sous leur pardessus, 2 Russes, me sembla-t-il, à leur très léger accent, se tenaient sur le seuil
et délibérait s'il devait entrer. C'était visiblement la première fois qu'il venait là. On avait dû leur indiquer l'endroit, et il semblait partagé entre le désir, la tentation et une extrême frousse. L'un des deux, un beau jeune homme, répétait toutes les deux minutes à l'autre avec un sourire mi-interrogateur, mi-destiné à persuader.
« Quoi ? Après tout, on s'en fiche !»
Mais il avait beau vouloir dire par là qu'après tout, on se fichait des conséquences, il est probable qu'il ne s'en fichait pas tant que cela, car cette parole n'était suivie d'aucun mouvement pour rentrer, mais d'un nouveau regard vers l'autre, suivi du même sourire et du même
« Après tout, on s'en fiche !»
C'était ce « Après tout, on s'en fiche !» un exemplaire entre mille de ce magnifique langage, si différent de celui que nous parlons d'habitude, et où l'émotion fait dévier ce que nous voulions dire et épanouir à la place une phrase tout autre, émergée d'un lac inconnu où vivent des expressions sans rapport avec la pensée, et qui, par cela même, la révèle. Je me souviens qu'une fois, Albertine, comme Françoise, que nous n'avions pas entendue, entrait au moment où mon amie était toute nue contre moi, dit, malgré elle, voulant me prévenir, « Tiens, voilà la belle Françoise !» Françoise, qui n'y voyait pas très clair et ne faisait que traverser la pièce assez loin de nous, ne se fut sans doute aperçue de rien. Mais les mots si anormaux de « belle Françoise » qu'Albertine n'avait jamais prononcé de sa vie montrèrent d'eux-mêmes leur origine. Elle les sentit cueillies au hasard par l'émotion, n'eut pas besoin de regarder rien pour comprendre tout, et s'en alla en murmurant dans son patois le mot de « putana ». Une autre fois, bien plus tard, quand Bloch, devenu père de famille, eut marié une de ses filles à un catholique, un monsieur mal élevé dit à celle-ci qu'il croyait avoir entendu dire qu'elle était fille d'un juif, et lui en demanda le nom. La jeune femme, qui avait été mademoiselle Bloch depuis sa naissance, répondit en prononçant « Bloch à l'allemande », comme eût fait le duc de Guermantes, c'est-à-dire en prononçant le « ch » non pas comme un « c » ou un « k », mais avec le « r » germanique. Le patron, pour en revenir à la scène de l'hôtel, dans lequel les deux Russes étaient décidés à pénétrer, après tout, on s'en fiche, n'était pas encore revenu que Jupien entra se plaindre qu'on parlait trop fort et que les voisins se plaindraient. Mais il s'arrêta stupéfait en m'apercevant. « Allez-vous-en tous sur le carré !» Déjà, tous se levaient quand je lui dis « Il serait plus simple que ces jeunes gens restent là et que j'aille avec vous un instant dehors. » Il me suivit fort troublé. Je lui expliquai pourquoi j'étais venu. On entendait des clients qui demandaient au patron s'il ne pouvait pas leur faire connaître un valet de pied, un enfant de cœur, un chauffeur nègre. Toutes les professions intéressaient ces vieux fous. Dans la troupe, toutes les armes et les alliés de toute nation. Quelques-uns réclamaient surtout des Canadiens, subissant peut-être à leur insu le charme d'un accent si léger qu'on ne sait pas si c'est celui de la vieille France ou de l'Angleterre. À cause de leurs jupons, et parce que certains rêves lacustres s'associent souvent à de tels désirs, les Écossais faisaient prime. Et comme toute folie reçoit des circonstances, des traits particuliers, sinon même une aggravation, un vieillard, dont toutes les curiosités avaient été assouvies, demandait avec insistance si on ne pourrait pas lui faire faire la connaissance d'un mutilé. On entendait des pas lents dans l'escalier. Par une indiscrétion qui était dans sa nature, Jupien ne put se retenir de me dire que c'était le baron qui descendait, qu'il ne fallait à aucun prix qu'il me vît, mais que, si je voulais entrer dans la petite chambre contiguë au vestibule où étaient les jeunes gens, il allait ouvrir les vasistas, truc qu'il avait inventé pour que le baron pût voir et entendre sans être vu, et qu'il allait, me disait-il, retourner en ma faveur contre lui. Surtout ne bougez pas. et après m'avoir poussé dans le noir, il me quitta. D'ailleurs, il n'avait pas d'autre chambre à me donner. Son hôtel, malgré la guerre, étant plein. Celle que je venais de quitter avait été prise par le vicomte de Courvoisier, qui, ayant pu quitter la Croix-Rouge de X pour 2 jours, était venu se délasser 1 heure à Paris avant d'aller retrouver au château de Courvoisier la vicomtesse, à qui il dirait n'avoir pas pu prendre le bon train. Il ne se doutait guère que M. de Charlus était à quelques mètres de lui, et celui-ci ne s'en doutait pas davantage, n'ayant jamais rencontré son cousin chez Jupien, lequel ignorait la personnalité du vicomte, soigneusement dissimulée. Bientôt, en effet, le baron entra, marchant assez difficilement à cause des blessures, dont il devait sans doute pourtant avoir l'habitude. Bien que son plaisir fût fini, et qu'il n'entrât d'ailleurs que pour donner à Maurice l'argent qu'il lui devait, il dirigeait en cercle sur tous ces jeunes gens réunis un regard tendre et curieux, et comptait bien avoir avec chacun le plaisir d'un bonjour tout platonique, mais amoureusement prolongé. Je lui retrouvai de nouveau, dans toute la sémillante frivolité dont il fit preuve devant ce harem qui semblait presque l'intimider, ces hochements de taille et de tête, ces affinements du regard qui m'avaient frappé le soir de sa première entrée à la Raspelière, grâce héritée de quelques grands-mères que je n'avais pas connues, et que dissimulaient dans l'ordinaire de la vie, sur sa figure, des expressions plus viriles, mais qui épanouissaient coquettement, dans certaines circonstances où il tenait à plaire à un milieu inférieur, le désir de paraître grande dame. Jupien les avait recommandés à la bienveillance du baron, en lui disant que c'étaient tous des « barbeaux de Belleville » et qu'ils marcheraient avec leur propre sœur pour 1 louis. Au reste, Jupien mentait et disait vrai à la fois. Meilleur, plus sensible qu'il ne disait au baron, il n'appartenait pas à une race sauvage. Mais ceux qui les croyaient tels leur parlaient néanmoins avec la plus entière bonne foi, comme si ces terribles eussent dû avoir la même. Un sadique a beau se croire avec un assassin, son âme pure, à lui sadique, n'est pas changée pour cela, et il reste stupéfait devant le mensonge de ces gens, pas assassin du tout, mais qui désire gagner facilement une thune, et dont le père ou la mère ou la sœur ressuscite et remeurt tour à tour en paroles, parce qu'ils se coupent dans la conversation qu'ils ont avec le client à qui ils cherchent à plaire. Le client est stupéfié dans sa naïveté, car dans son arbitraire conception du gigolo, ravi des nombreux assassinats dont il le croit coupable, il s'effare d'une contradiction et d'un mensonge qu'il surprend dans ses paroles. Tous semblaient le connaître, et M. de Charlus s'arrêtait longuement à chacun, leur parlant ce qu'il croyait leur langage, à la fois par une affectation prétentieuse de couleur locale, et aussi par un plaisir sadique de se mêler à une vie crapuleuse. « Toi, c'est dégoûtant. Je t'ai aperçu devant l'Olympia avec 2 cartons. C'est pour te faire donner du pèse. Voilà comme tu me trompes. » Heureusement, pour celui à qui s'adressait cette phrase, il n'eut pas le temps de déclarer qu'il n'eût jamais accepté de pèse d'une femme, ce qui eût diminué l'excitation de M. de Charlus, et réserva sa protestation pour la fin de la phrase en disant « Oh non, je ne vous trompe pas !» Cette parole causa à M. de Charlus un vif plaisir, et comme, malgré lui, le genre d'intelligence qui était naturellement le sien ressortait d'à travers celui qui l'affectait. Il se retourna vers Jupien. « Il est gentil de me dire ça, et comme il le dit bien, on dirait que c'est la vérité. Après tout, qu'est-ce que ça fait que ce soit la vérité ou non, puisqu'il arrive à me le faire croire ? Quels jolis petits yeux il a ! Je vais te donner 2 gros baisers pour la peine, mon petit gars. Tu penseras à moi dans les tranchées. C'est pas trop dur ? Oh, dame, Il y a des jours, quand une grenade passe à côté de vous... »
Et le jeune homme se mit à faire des imitations du bruit de la grenade, des avions, etc.
« Mais il faut bien faire comme les autres, et vous pouvez être sûr et certain qu'on ira jusqu'au bout. »«
Jusqu'au bout. Si on savait seulement jusqu'à quel bout !» dit mélancoliquement le baron qui était pessimiste.
« Vous n'avez pas vu que Sarah Bernard l'a dit sur les journaux ? La France, elle ira jusqu'au bout. Les Français, ils se feront tuer plutôt jusqu'au dernier. »
« Je ne doute pas un seul instant que les Français ne se fassent bravement tuer jusqu'au dernier, » dit M. de Charlus, comme si c'était la chose la plus simple du monde, et bien qu'il n'eût lui-même l'intention de faire quoi que ce soit, mais pensant par là corriger l'impression de pacifisme qu'il donnait quand il s'oubliait.
« Je n'en doute pas, mais je me demande jusqu'à quel point Madame Sarah Bernard est qualifiée pour parler au nom de la France.
« Mais, » ajouta-t-il, « il me semble que je ne connais pas ce charmant, ce délicieux jeune homme. »
En avisant un autre qu'il ne reconnaissait pas ou qu'il n'avait peut-être jamais vu. Il le salua comme il eût salué un prince à Versailles. Et pour profiter de l'occasion d'avoir en supplément un plaisir gratis, comme quand j'étais petit et que ma mère venait de faire une commande chez Boissier ou chez Gouache, je prenais, sur l'offre d'une des dames du comptoir, un bonbon, extrait d'un des vases de verre entre lesquels elle trônait. Prenant la main du charmant jeune homme et la lui serrant longuement à la prussienne, le fixant des yeux en souriant pendant le temps interminable que mettait autrefois à nous faire poser les photographes quand la lumière était mauvaise.
« Monsieur, je suis charmé, je suis enchanté de faire votre connaissance. »«
Il a de jolis cheveux, » dit-il en se tournant vers Jupien. Il s'approcha ensuite de Maurice pour lui remettre ses 50 francs, mais le prenant d'abord par la taille.
« Tu ne m'avais jamais dit que tu avais suriné une pipelette de Belleville ?»
Et M. de Charlus râlait d'extase et approchait sa figure de celle de Maurice.
« Oh, monsieur le baron !» dit en protestant le gigolo, qu'on avait oublié de prévenir. « Pouvez-vous croire une chose pareille ?»
Soit qu'en effet le fait fût faux, ou que, vrai, son auteur le trouva pourtant abominable et de ceux qu'il convient de nier.
« Moi, toucher à mon semblable, à un boche, oui, parce que c'est la guerre, mais à une femme, et à une vieille femme encore. »
Cette déclaration de principe vertueux fit l'effet d'une douche d'eau froide sur le baron, qui s'éloigna sèchement de Maurice, en lui remettant toutefois son argent, mais de l'air dépité de quelqu'un qu'on a floué, qui ne veut pas faire d'histoire, qui paie, mais n'est pas content. La mauvaise impression du baron fut d'ailleurs accrue par la façon dont le bénéficiaire le remercia, car il dit « Je vais envoyer ça à mes vieux, et j'en garderai aussi un peu pour mon frangin qui est sur le front. » Ces sentiments touchants désappointèrent presque autant M. de Charlus que l'agaçait l'expression d'une paysannerie un peu conventionnelle. Jupien parfois les prévenait qu'il fallait être plus pervers. Alors l'un d'eux, de l'air de confesser quelque chose de satanique, aventurait.
« Dites donc, baron, vous n'allez pas me croire, mais quand j'étais gosse, je regardais par le trou de la serrure mes parents s'embrasser. C'est vicieux, pas ? Vous avez l'air de croire que c'est un bourrage de crâne. » « Mais non, je vous jure, tel que je vous le dis. »
Et M. de Charlus était à la fois désespéré et exaspéré par cet effort factice vers la perversité qui n'aboutissait qu'à révéler tant de sottises et tant d'innocence. Et même le voleur, l'assassin le plus déterminé ne l'eussent pas contenté, car ils ne parlent pas de leur crime. Et il y a d'ailleurs chez le sadique, si bon qu'il puisse être, bien plus, d'autant meilleur qu'il est, une soif de mal que les méchants agissant dans d'autres buts ne peuvent contenter. Le jeune homme eut beau, comprenant trop tard son erreur, dire qu'il ne blairait pas les flics et pousser l'audace jusqu'à dire au baron « Fous-moi un rencard !» Un rendez-vous. Le charme était dissipé. On sentait le chiquet, comme dans les livres des auteurs qui s'efforcent pour parler argot. C'est en vain que le jeune homme détailla toutes les saloperies qu'il faisait avec sa femme. Monsieur de Charlus fut seulement frappé combien ces saloperies se bornaient à peu de choses. Au reste, ce n'était pas seulement par insincérité. Rien n'est plus limité que le plaisir et le vice. On peut vraiment, dans ce sens-là, et en changeant le sens de l'expression, dire qu'on tourne toujours dans le même cercle vicieux.
Comme il est simple, jamais on ne dirait un prince,
dirent quelques habitués quand M. de Charlus fut sorti, reconduit jusqu'en bas par Jupien, auquel le baron ne laissa pas de se plaindre de la vertu du jeune homme. À l'air mécontent de Jupien, qui avait dû styler le jeune homme d'avance, on sentit que le faux assassin recevrait tout à l'heure un fameux savon.
« C'est tout le contraire de ce que tu m'as dit !»
ajouta le baron pour que Jupien profitât de la leçon pour une autre fois.
« Il a l'air d'une bonne nature, il exprime des sentiments de respect pour sa famille. »
« Il n'est pourtant pas bien avec son père, » objecta Jupien, pris au dépourvu. « Ils habitent ensemble, mais ils servent chacun dans un bar différent. » C'était évidemment faible comme crime auprès de l'assassinat, mais Jupien se trouvait pris au dépourvu. Le baron n'ajouta rien, car s'il voulait qu'on préparât ses plaisirs, il voulait se donner à lui-même l'illusion que ceci n'était pas préparé.
« C'est un vrai bandit, il vous a dit cela pour vous tromper, vous êtes trop naïf !»
ajouta Jupien pour se disculper et ne faisant que froisser l'amour-propre de M. de Charlus. En même temps qu'on croyait M. de Charlus prince, en revanche on regrettait beaucoup, dans l'établissement, la mort de quelqu'un dont les gigolos disaient « Je ne sais pas son nom, il paraît que c'est un baron » et qui n'était autre que le prince de Foix, le père de l'ami de Saint-Loup. Passant chez sa femme pour vivre beaucoup au cercle, en réalité il passait des heures chez Jupien à bavarder, à raconter des histoires du monde devant des voyous. C'était un grand bel homme, comme son fils. Il est extraordinaire que M. de Charlus, sans doute parce qu'il l'avait toujours connu dans le monde, ignora qu'il partageait ses goûts. On allait même jusqu'à dire qu'il les avait autrefois portés jusque sur son fils encore collégien, l'ami de Saint-Loup, ce qui était probablement faux. Au contraire, très renseigné sur des mœurs que beaucoup ignorent, il veillait beaucoup aux fréquentations de son fils. Un jour qu'un homme, d'ailleurs de basse extraction, avait suivi le jeune prince de Foix jusqu'à l'hôtel de son père, où il avait jeté un billet par la fenêtre, le père l'avait ramassé. Mais le suiveur, bien qu'il ne fût pas aristocratiquement du même monde que M. de Foix le père, l'était à un autre point de vue. Il n'eut pas de peine à trouver dans de communs complices un intermédiaire qui fit taire M. de Foix en lui prouvant que c'était le jeune homme qui avait provoqué cette audace d'un homme âgé. Et c'était possible, car le prince de Foix avait pu réussir à préserver son fils des mauvaises présentations au dehors, mais non de l'hérédité. Au reste, le jeune prince de Foix resta, comme son père, ignoré à ce point de vue des gens du monde, bien qu'il allât plus loin que personne avec ceux d'un autre.
« Il paraît qu'il a 1 000 000 à manger par jour, » dit le jeune homme de 22 ans, auquel l'assertion qu'il émettait ne semblait pas invraisemblable. On entendit bientôt le roulement de la voiture qui était venue chercher M. de Charlus. À ce moment, j'aperçus, avec une démarche lente, à côté d'un militaire qui évidemment sortait avec elle d'une chambre voisine, une personne qui me parut une dame assez âgée, en jupe noire. Je reconnus bientôt mon erreur. C'était un prêtre. C'était cette chose si rare, et en France absolument exceptionnelle, qu'est un mauvais prêtre. Évidemment, le militaire était en train de railler son compagnon au sujet du peu de conformité que sa conduite offrait avec son habit, car celui-ci, d'un air grave et levant vers son visage hideux un doigt de docteur en théologie, dit sentencieusement « Que voulez-vous? Je ne suis pas... » J'attendais un saint. Un ange. D'ailleurs, il n'avait plus qu'à s'en aller et prit congé de Jupien, qui, ayant accompagné le baron, venait de remonter. Mais par étourderie, le mauvais prêtre oublia de payer sa chambre. Jupien, que son esprit n'abandonnait jamais, agita le tronc dans lequel il mettait la contribution de chaque client et le fit sonner en disant « Pour les frais du culte, monsieur l'abbé !» Le vilain personnage s'excusa, donna sa pièce et disparut. Jupien vint me chercher dans l'antre obscur où je n'osais faire un mouvement. Entrez un moment dans le vestibule où mes jeunes gens font banquette pendant que je monte fermer la chambre. Puisque vous êtes locataire, c'est tout naturel. Le patron y était, je le payais. À ce moment, un jeune homme en smoking entra et demanda d'un air d'autorité au patron « Pourrais-je avoir Léon demain matin à 11h moins le quart au lieu de 11h parce que je déjeune en ville ?»« Cela dépend, » répondit le patron, « du temps que le gardera l'abbé. » Cette réponse ne parut pas satisfaire le jeune homme en smoking qui semblait déjà prêt à invectiver contre l'abbé. Mais sa colère prit un autre cours quand il m'aperçut. Marchant droit au patron. « Qui est-ce? Qu'est-ce que ça signifie ? » murmura-t-il d'une voix basse mais courroucée. Le patron, très ennuyé, expliqua que ma présence n'avait aucune importance, que j'étais un locataire. Le jeune homme en smoking ne parut nullement apaisé par cette explication. Il ne cessait de répéter. « C'est excessivement désagréable. Ce sont des choses qui ne devraient pas arriver. » « Vous savez que je déteste ça, et vous ferez si bien que je ne remettrai plus les pieds ici. » L'exécution de cette menace ne parut pas cependant imminente, car il partit furieux, mais en recommandant que Léon tâchât d'être libre à 11h moins le quart, 10h30 si possible. Jupien revint me chercher et descendit avec moi. « Je ne voudrais pas que vous me jugiez mal, » me dit-il. « Cette maison ne me rapporte pas autant d'argent que vous croyez. Je suis forcé d'avoir des locataires honnêtes. Il est vrai qu'avec eux seuls, on ne ferait que manger de l'argent. Ici, c'est le contraire des Carmels. C'est grâce au vice que vit la vertu. Non, si j'ai pris cette maison, ou plutôt si je l'ai fait prendre au gérant que vous avez vu, c'est uniquement pour rendre service au baron et distraire ses vieux jours. » Jupien ne voulait pas parler que de scènes de sadisme comme celles auxquelles j'avais assisté, et de l'exercice même du vice du baron. Celui-ci, même pour la conversation, pour lui tenir compagnie, pour jouer aux cartes, ne se plaisait plus qu'avec des gens du peuple qui l'exploitaient. Sans doute le snobisme de la canaille peut aussi bien se comprendre que l'autre. Ils avaient d'ailleurs été longtemps unis, alternant l'un avec l'autre, chez M. de Charlus, qui ne trouvait personne d'assez élégant pour ses relations mondaines, ni de frisant assez lapache pour les autres. « Je déteste le genre moyen, » disait-il, « la comédie bourgeoise est guindée. Il me faut ou les princesses de la tragédie classique ou la grosse farce, pas de milieu, Phèdre ou les haltimbanques. » Mais enfin, l'équilibre entre ces deux snobismes avait été rompu. Peut-être fatigue de vieillard ou extension de la sensualité aux relations les plus banales, le baron ne vivait plus qu'avec des inférieurs, prenant ainsi, sans le savoir, la succession de tels de ses grands ancêtres, le duc de La Rochefoucauld, le prince d'Harcourt, le duc de Berry, que Saint-Simon nous montre passant leur vie avec leurs laquais, qui tiraient d'eux des sommes énormes, partageant leurs jeux, au point qu'on était gêné pour ces grands seigneurs, quand il fallait les aller voir, de les trouver installés familièrement à jouer aux cartes ou à boire avec leur domesticité.
C'est surtout, ajouta Jupien, pour lui éviter des ennuis, parce que, voyez-vous, le baron, c'est un grand enfant. Même maintenant qu'il a ici tout ce qu'il peut désirer, il va encore à l'aventure faire le vilain. Et généreux comme il est, ça pourrait souvent, par le temps qui court, avoir des conséquences.
N'y a-t-il pas l'autre jour un chasseur d'hôtel qui mourait de peur à cause de tout l'argent que le baron lui offrait pour venir chez lui?
Chez lui, quelle imprudence! Ce garçon, qui pourtant aime seulement les femmes, a été rassuré quand il a compris ce qu'on voulait de lui. En entendant toutes ces promesses d'argent, il avait pris le baron pour un espion. Et il s'est senti bien à l'aise quand il a vu qu'on ne lui demandait pas de livrer sa patrie, mais son corps. Ce qui n'est peut-être pas plus moral, mais ce qui est moins dangereux et surtout plus facile.
Et en écoutant Jupien, je me disais « Quel malheur que M. de Charlus ne soit pas romancier ou poète, non pas pour décrire ce qu'il verrait, mais le point où se trouve un charlu par rapport au désir fait naître autour de lui les scandales, le force à prendre la vie sérieusement, à mettre des émotions dans le plaisir, l'empêche de s'arrêter, de s'immobiliser dans une vue ironique et extérieure des choses, rouvre sans cesse en lui un courant douloureux. Presque chaque fois qu'il adresse une déclaration, il essuie une avanie, s'il ne risque pas même la prison. Ce n'est pas que l'éducation des enfants, c'est celle des poètes qui se fait à coups de gifle. Si M. de Charlus avait été romancier, la maison que lui avait aménagée Jupien, en réduisant dans de telles proportions les risques, du moins, car une descente de police était toujours à craindre, les risques à l'égard d'un individu des dispositions duquel, dans la rue, le baron n'eût pas été assuré, eût été pour lui un malheur. Mais M. de Charlus n'était en art qu'un dilettante qui ne songeait pas à écrire et n'était pas doué pour cela.
D'ailleurs, vous avouerai-je, reprit Jupien, que je n'ai pas un grand scrupule à avoir ce genre de gain. La chose elle-même qu'on fait ici, je ne peux plus vous cacher que je l'aime, quel est le goût de ma vie. Or, est-il défendu de recevoir un salaire pour des choses qu'on ne juge pas coupables? Vous êtes plus instruit que moi, et vous me direz sans doute que Socrate ne croyait pas pouvoir recevoir d'argent pour ses leçons. Mais de notre temps, les professeurs de philosophie ne pensent pas ainsi. Ni les médecins, ni les peintres, ni les dramaturges, ni les directeurs de théâtre. Ne croyez pas que ce métier ne fasse fréquenter que des canailles. Sans doute le directeur d'un établissement de ce genre, comme une grande cocotte, ne reçoit que des hommes. Mais il reçoit des hommes marquants dans tous les genres et qui sont généralement, à situation égale, parmi les plus fins, les plus sensibles, les plus aimables de leur profession. Cette maison se transformerait vite, je vous l'assure, en un bureau d'esprit et une agence de nouvelles. Mais j'étais encore sous l'impression des coups que j'avais vus recevoir à M. de Charlus. Et à vrai dire, quand on connaissait bien M. de Charlus, son orgueil, sa satiété des plaisirs mondains, ses caprices changés facilement en passion pour des hommes de dernier ordre et de la pire espèce, on peut très bien comprendre que la même grosse fortune qui, échue à un parvenu, l'eût charmé en lui permettant de marier sa fille à un duc et d'inviter des altesses à ses chasses. M. de Charlus était content de la posséder parce qu'elle lui permettait d'avoir ainsi la haute main sur un, peut-être sur plusieurs établissements, où étaient en permanence des jeunes gens avec lesquels il se plaisait. Peut-être n'y eut-il même pas besoin de son vice pour cela. Il était l'héritier de tant de grands seigneurs, princes du sang ou ducs, dont Saint-Simon nous raconte qu'il ne fréquentait personne qui se pût nommer.
« En attendant, dis-je à Jupien, cette maison est tout autre chose, plus qu'une maison de fous, puisque la folie des aliénés qui y habitent est mise en scène. » Reconstitué, visible, c'est un vrai pandémonium. J'avais cru, comme le calife des mille et une nuits, arriver à point au secours d'un homme qu'on frappait. Et c'est un autre conte des mille et une nuits que j'ai vu réaliser devant moi. Celui où une femme, transformée en chienne, se fait frapper volontairement pour retrouver sa forme première.
Jupien paraissait fort troublé par mes paroles, car il comprenait que j'avais vu frapper le baron. Il resta un moment silencieux, puis tout d'un coup, avec le joli esprit qui m'avait si souvent frappé chez cet homme, qui s'était fait lui-même, quand il avait pour m'accueillir, Françoise ou moi, dans la cour de notre maison, de si gracieuses paroles.
« Vous parlez de bien des contes des mille et une nuits, me dit-il, mais j'en connais un qui n'est pas sans rapport avec le titre d'un livre que je crois avoir aperçu chez le baron. »
Il faisait allusion à une traduction de Sésame et les Lys de Ruskin que j'avais envoyée à M. de Charlus.
« Si jamais vous étiez curieux, un soir, de voir, je ne dis pas 40, mais une dizaine de voleurs, vous n'avez qu'à venir ici. Pour savoir si je suis là, vous n'avez qu'à regarder là-haut. Je laisse ma petite fenêtre ouverte et éclairée. Cela veut dire que je suis venu, qu'on peut entrer. C'est mon sésame à moi. »
Je dis seulement sésame, car pour les Lys, si c'est eux que vous voulez, je vous conseille d'aller les chercher ailleurs.
Et me saluant assez cavalièrement, car une clientèle aristocratique et une clique de jeunes gens qu'il menait comme un pirate lui avaient donné une certaine familiarité, il prit congé de moi. Il m'avait à peine quitté que la sirène retentit, immédiatement suivie de violents tirs de barrage. On sentait que c'était tout auprès, juste au-dessus de nous, que l'avion allemand se tenait. Et soudain, le bruit d'une forte détonation montra qu'il venait de lancer une de ses bombes. Dans une même salle de la maison de Jupien, beaucoup d'hommes, qui n'avaient pas voulu fuir, s'étaient réunis. Ils ne se connaissaient pas entre eux, mais étaient pourtant à peu près du même monde, riches et aristocratiques. L'aspect de chacun avait quelque chose de répugnant qui devait être la non-résistance à des plaisirs dégradants. L'un, énorme, avait la figure couverte de taches rouges, comme un ivrogne. J'avais appris qu'au début, il ne l'était pas, et prenait seulement son plaisir à faire boire des jeunes gens. Mais, effrayé par l'idée d'être mobilisé, bien qu'il semblât avoir dépassé la cinquantaine, comme il était très gros, il s'était mis à boire sans arrêter pour tâcher de dépasser le poids de 100 kilos, au-dessus duquel on était réformé. Et maintenant, ce calcul s'étant changé en passion, où qu'on le quittât, tant qu'on le surveillait, on le retrouvait chez un marchand de vin. Mais dès qu'il parlait, on voyait que, médiocre d'ailleurs d'intelligence, c'était un homme de beaucoup de savoir, d'éducation et de culture. Un autre homme du grand monde, celui-là fort jeune et d'une extrême distinction physique, était entré. Chez lui, à vrai dire, il n'y avait encore aucun stigmate extérieur d'un vice, mais, ce qui était plus troublant, d'intérieur. Très grand, d'un visage charmant, son élocution décelait d'une toute autre intelligence que celle de son voisin l'alcoolique, et, sans exagérer, vraiment remarquable. Mais à tout ce qu'il disait était ajoutée une expression qui eût convenu à une phrase différente. Comme si, tout en possédant le trésor complet des expressions du visage humain, il eût vécu dans un autre monde. Il mettait à jour ses expressions dans l'ordre qu'il ne fallait pas. Il semblait effeuiller au hasard des sourires et des regards sans rapport avec le propos qu'il entendait. J'espère pour lui, si, comme il est certain, il vit encore, qu'il était non la proie d'une maladie durable, mais d'une intoxication passagère. Il est probable que, si l'on avait demandé leur carte de visite à tous ces hommes, on eût été surpris de voir qu'ils appartenaient à une haute classe sociale. Mais quelques vices, et le plus grand de tous, le manque de volonté, qui empêche de résister à aucun, les réunissait là, dans des chambres isolées, il est vrai, mais chaque soir, me dit-on, de sorte que si leur nom était connu des femmes du monde, Celles-ci avaient peu à peu perdu de vue leur visage et n'avaient plus jamais l'occasion de recevoir leur visite. Ils recevaient encore des invitations, mais l'habitude les ramenait au mauvais lieu composite. Ils s'en cachaient peu, du reste, au contraire des petits chasseurs, ouvriers, etc., qui servaient à leur plaisir. Et en dehors de beaucoup de raisons que l'on devine, cela se comprend par celle-ci. Pour un employé d'industrie, pour un domestique, aller là, c'était, comme pour une femme qu'on croyait honnête, aller dans une maison de passe. Certains qui avouaient y être allés se défendaient d'y être plus jamais retournés. Et Jupien lui-même, mentant pour protéger leur réputation ou éviter des concurrences, affirmait « Oh non, il ne vient pas chez moi, il ne voudrait pas y venir ». Pour des hommes du monde, c'est moins grave, d'autant plus que les autres gens du monde qui n'y vont pas ne savent pas ce que c'est et ne s'occupent pas de votre vie.